Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc dans la seconde partie de cette conférence débat consacrée à la biodiversité et au changement climatique. Hier soir, vous avez pu entrer en contact avec différents intervenants qui nous ont exposé un peu la situation, les mesures qu'il y avait à prendre et qui nous ont également donné des exemples concrets en région sur l'impact sur la biodiversité vis-à-vis du changement climatique. Ce soir, nous nous retrouvons donc maintenant en présence de Marie Legrand, vice-présidente du Conseil régional Poitou-Charentes et chargée de l'environnement. Marie Legrand, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes également en présence de Jean-Louis Fraud, vice-président du Conseil général de Charente-Maritime et conseiller régional. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin de François-Marie Pellerin, président de la coordination pour la défense du Marais Poitevin, également ingénieur géologue. Bonsoir.
Bonsoir.
Les trois intervenants d'hier sont également présents. Ils pourront répondre donc aux différentes questions du public. Je rappelle donc la présence de Vincent Albouy, président de l'OPIE Poitou-Charentes, d'Alain Pertuis, chargé de mission au Centre régional de la propriété forestière Poitou-Charentes, et Emmanuel Béjanin, animateur secteur évaluation prospective, information sensibilisation à l'ADEME APCEDE. Donc la première chose que j'ai envie de demander, c'est donc entre personnes qui viennent de nous rejoindre, tout d'abord une réaction sur l'exposé qui vient d'être fait, Marie Legrand.
Ces questions autour du changement climatique et des bouleversements climatiques avérés très popularisés par Al Gore ces temps derniers, je les connais évidemment, donc il n'y a pas une surprise et une découverte de quelque chose. Simplement, j'ai trouvé que les exposés à trois voix, donc autour d'une voie plutôt, je dirais, scientifique, technique, historique, géopolitique quelque part, et deux voies naturalistes bien complémentaires avaient un fort intérêt, puisqu'elles s'appuyaient sur des exemples locaux d'une très grande précision.
Jean-Louis Fraud?
Oui, évidemment, je ne dirais pas l'inverse de ce que vient de dire Marie Legrand. Je pense que les exposés qui ont été faits ont tout de même porté les problèmes au niveau mondial, au niveau de la planète, et que c'est une référence à laquelle les élus de base n'ont pas toujours tendance à prendre en compte. Hein, dans les communes, dans les départements notamment, on s'en tient probablement trop souvent au territoire. Au territoire à l'égard duquel on a des responsabilités. Et là, ce qui s'est dit là pendant 1 heure, me semble-t-il, a élevé le débat. En tout cas, l'a placé au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de la planète. Je regardais encore hier soir avec mon petit-fils la map monde. Qu'est-ce que la France sur le monde? C'est rien, c'est tout petit. Évidemment, un département ou une région comme Poitou-Charentes, c'est pas grand non plus. Et les problèmes dont on parle sont à la fois d'échelle planétaire et à l'échelle des responsabilités plus modestes que nous avons dans nos territoires. Il faut avoir les deux regards, je crois.
Nous reviendrons tout de suite après, justement, sur votre rôle d'élu face à ces différents problèmes. François-Marie Pellerin, vous êtes ingénieur géologue. Donc, qu'avez-vous pensé de l'exposé? Vous êtes confronté vous-même, je pense, quotidiennement à des problèmes liés au changement climatique.
Oui, bonsoir. Donc effectivement, les deux volets. D'abord, comme géologue, bon, le changement climatique, ça nous effraie pas. Hein, on travaille à l'échelle de millions d'années. La Terre a vécu ça. La vie a survécu, si je peux m'exprimer très mal. Le problème dans ces changements qu'on a connus, il y a eu plusieurs cycles et catastrophes climatiques de ce type-là, climatiques et écologiques. Un grand nombre d'espèces ont disparu. La vie a repris, donc c'est pas la vie, je choque peut-être, c'est pas la vie du tout qui est en suspens et qui est menacée. C'est pas la biodiversité, c'est pas la vie, c'est peut-être l'espèce humaine, parce que ce que l'on constate dans les plus grandes catastrophes, en fait, ce sont les espèces les plus robustes, donc les plus robustes, donc les moins spécialisées, les moins évoluées, qui ont survécu. Bon, Ça, c'était simplement en passant.
Une petite touche.
Non, c'est optimiste, hein, la vie ne disparaîtra pas. Donc, je reviens sur le marais Poitevin, l'autre aspect. Alors, curieusement, c'est une problématique dans tout ce que l'on brasse. Le marais Poitevin, c'est un secteur très préoccupant, hein, vous l'avez vu. C'est une problématique donc, qui est fondamentale, hein, celle-ci, mais qui, à l'échelle du marais Poitevin, n'est pas souvent mise en avant. Je dirais même plus que si on regarde les préoccupations qui agitent ce territoire et son grand bassin versant, y compris au niveau de la gestion de l'eau, en fait, on se demande si les préoccupations et l'agitation, les préoccupations sont finalement peut-être beaucoup plus politiques qu'environnementales dans ce secteur. Bon. Donc, je rappelle, le Marais Poitevin est sur trois départements, dont la Vendée, et deux régions dans les Pays de l'Oise. Donc, il y a cet aspect-là, mais effectivement, la biodiversité, c'est un problème. Un problème fondamental. Mais là aussi, il faut le remettre en face. Alors, il n'est pas question de nier ce problème-là, mais il faut remettre en face aussi l'érosion de la biodiversité ou son changement par rapport au changement climatique à venir, qu'on maîtrise mal, c'est ce qui nous a été dit, mais aussi par rapport à des pratiques tout à fait actuelles et qu'on vit depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui sont peut-être, toutes choses égales par ailleurs, bien plus percutantes. Finalement, au point que ce qu'on nous a expliqué hein, sur les espèces qui évoluent, qui disparaissent, je me demande si ce n'est pas si difficile à mesurer, parce qu'en fait, elles sont effacées par des perturbations qui sont bien plus intenses au jour d'aujourd'hui et qui sont liées à des pratiques que l'on connaît tous. Donc, voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Après, on pourra rebondir.
Donc, une question maintenant qui s'adresse aux élus. Vous êtes en charge de responsabilité depuis maintenant un certain nombre d'années, vous êtes au cœur de la vie politique. Est-ce que vous ressentez un intérêt croissant des citoyens pour ces questions-là? Est-ce que les prises de conscience avancent ou est-ce qu'on est encore trop éloigné d'une prise de conscience suffisamment forte?
Votre question est très délicate parce que moi je ne suis pas professionnelle dans une agence d'opinion, donc ce que je vais dire est forcément erroné, donc ce sera une opinion strictement personnelle. Un petit clin d'œil, il paraîtrait que dans un magazine appelé La Vie récemment, une enquête faite par cette fois des vrais professionnels ait montré le faible intérêt des habitants du Poitou-Charentes pour les questions d'environnement qui les a classés au 19e rang national sur 22 régions. Donc voilà un exemple fait par des professionnels. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Maintenant, si vous me demandez mon avis, moi je peux vous donner uniquement l'avis des gens avec qui je travaille au quotidien. Donc je peux vous donner l'avis de l'exécutif du conseil régional. Je travaille dans cet exécutif au quotidien. Des structures associatives avec lesquelles je suis en contact permanent. Je peux vous porter cet avis-là, mais pas un avis de sondage général des Picto-Charentais qui les porte au 19e rang, malheureusement. Donc, mon avis sur les gens que je côtoie, donc le milieu associatif, le Conservatoire des espaces naturels, l'ADEME, la PCDE, l'ORE, l'IFRE, ATMO, tous ces militants de Poitou-Charentes Nature et d'autres, et tant d'autres, eux sont très avertis sur ces questions, ont très envie de changer, ils ont déjà changé leur propre comportement, et ils ont envie de changer celui d'une majorité de leurs concitoyens, et ils sont très demandeurs auprès du monde politique pour que des mesures beaucoup plus radicales soient mises en place rapidement chez nous, en Poitou-Charentes.
Vous, votre rôle d'élu, c'est de mettre en place justement des mesures et d'essayer de mesurer si les citoyens sont prêts à les adopter, à les suivre.
Alors, je peux vous dire que la région Poitou-Charentes, le conseil régional de Poitou-Charentes, depuis 2004, a amplifié avec son partenaire historique, l'ADEME, les fonds, donc les financements de toutes ces politiques liées à la sobriété, mais surtout l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. La part régionale sur 2006 a doublé, passant de 3 millions d'euros à 6 millions d'euros sur ces questions d'énergie renouvelable et d'efficacité. Et sur la période 2007-2013, ce sont plus de 120 millions d'euros qui vont aller sur ces politiques-là, avec la moitié de fonds européens. Et en retour, il y a une demande croissante des foyers et puis également des entreprises et des collectivités dans le domaine des chaudières en bois, du solaire et surtout du photovoltaïque, qui est très, où la demande est particulièrement importante en 2007.
Donc là, nous sommes dans les énergies renouvelables et au niveau de la sobriété et de l'efficacité, est-ce que les mesures sont aussi suivies par nos concitoyens?
Je parlais aussi, j'englobais dans ces sommes très importantes l'efficacité énergétique. Alors, je voulais aussi rappeler ce que disait hier soir Emmanuel Béjanin. Donc, il était question d'une action d'envergure autour d'un plan initiative climat. Cette action est menée conjointement par le Conseil régional Poitou-Charentes et par l'ADEME depuis 2004, avec Pierre Radane comme animateur principal, et a donné lieu à un livre blanc, donc très documenté, sur l'état des lieux et les mesures à prendre. Il a concerné plusieurs centaines d'acteurs sur 12 domaines différents qui continuent à travailler pour concrètement limiter de 800 000 tonnes équivalent CO2 par an notre rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre en Poitou-Charentes. Alors, un petit exemple qui est loin d'être inintéressant, le Poitou-Charentes, la région elle-même, à travers ses lycées et ses politiques propres, a fait son calcul. Et sur ces 800 000 tonnes CO2 par an, déjà l'année dernière et cette année, nous économisons 5% de ce total. Donc nous avons dépassé 40 000 tonnes équivalent CO2. Nous avons lancé 7 contrats locaux initiative climat, dont je peux vous citer ceux du Pays Touarçais, qui est le plus ancien, de la ville, la communauté d'agglomération de Poitiers, puis Angoulême, c'est les trois premiers. Quatre nouveaux secteurs vont participer à ces contrats locaux initiative climat. À chaque fois, comme le disait Emmanuel Béjanin, il s'agit de quantifier d'une part, faire son propre bilan carbone, donc bilan des gaz rejetés, gaz à effet de serre, et de quantifier son objectif. Donc chaque collectivité dit, comme la région, moi, tout seul, je vais économiser tant de milliers de tonnes équivalent CO2 à l'horizon 2008, 2010, etc. La dernière date, c'est 2010. Donc, il peut quantifier année par année. Et il faut que tous ensemble, nous arrivions d'ici 3 ans à obtenir ces 800 000 tonnes équivalent CO2 en moins, puis passer à l'étape beaucoup plus difficile du facteur 4 avant 2050, c'est-à-dire diviser par 4 nos rejets de gaz à effet de serre. J'insiste bien, la région ne pourra pas tout faire seule. Elle a initié une action collective avec des centaines et des centaines d'acteurs relais qui vont démultiplier ces actions auprès du maximum d'habitants du Poitou-Charentes. Nous devons réussir cette initiative climat, nous devons réussir cette opération. Échéance 2010, 800 000 tonnes par an et facteur 4 en 2050.
Une question qui s'adresse aussi bien à Jean-Louis Faux qu'à vous, Marie Legrand. Est-ce que pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, peut-être même pas suffisamment ambitieux, est-ce qu'on va être obligé de avoir recours à des mesures contraignantes, non pas seulement incitatives?
Moi, dans ce qu'a dit M. Béjanin tout à l'heure, j'ai retenu tout particulièrement le volet sobriété. Moi, il y a quelques années, on appelait ça les économies d'énergie. Et j'ai eu la chance, en tant que maire de Rochefort, d'avoir à mes côtés un technicien formidable sur ce sujet, avec lequel on a énormément travaillé pour optimiser tout ce qui touche à l'énergie sur le territoire communal, qu'il soit de la responsabilité de la commune, en essayant de s'en servir d'exemple auprès de la population. Ça a très bien marché, puisqu'on est arrivé à être la ville la plus économe en énergie ramenée à la tête d'habitants. J'en ai tiré plusieurs enseignements. D'abord, c'est que l'optimisation à un instant donné, 10 ans plus tard, peut apparaître comme complètement insuffisante parce que les techniques ont évolué. Des opérations hyper performantes réalisées en 92 ou 95, aujourd'hui, sont sans aucun doute bien améliorables encore, avec des résultats positifs à tout niveau. Deuxièmement, il faut que ça touche à tout. Je vais vous citer un exemple dans 2 minutes. Un exemple hyper concret. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais je disais, ça touche à tout, y compris à la consommation d'eau. Il faut absolument dans les collectivités territoriales, prendre en compte, avec les énergies, tout ce qui touche à l'eau. Pour les raisons que je ne développerai pas, bien évidemment, mais je crois aussi que c'est très important. Et s'il faut, les économies qu'on peut faire sur les pratiques à l'égard de l'utilisation de l'eau. Et alors, dans une ville, même modeste comme Rochefort, ça se traduit par des dizaines et des dizaines de milliers de mètres cubes tous les mois. C'est pas neutre. Si on le faisait partout, ça peut être formidable. Alors, sur l'énergie, je prends un exemple qui concerne une commune de Charente-Maritime que je ne citerai pas. Et un aménagement réalisé par le département de Charente-Maritime. On dévie un village. Bon, très bien, tout le monde est content, il n'y a plus de voitures ni de camions à passer dans le village. Parfait. Et 18 mois plus tard, le maire vient me trouver en tant que conseiller général et me dit, dites donc, c'est fou. Le giratoire que vous avez fait au milieu de la déviation a été éclairé par 52 foyers lumineux. Je les ai comptés. Oui, et alors ? Oui, c'est vrai, 52 foyers lumineux, oui. Et alors ? Eh bien, les 52 foyers lumineux du nouveau giratoire me consomment plus d'éclairage public que tout ce qu'il y avait antérieurement sur la commune. Alors, je suis allé immédiatement voir l'ingénieur du service routier, puis je lui raconte le truc. Je lui dis, écoutez, il faut qu'on trouve une solution. Mais c'est pas tenable sur le plan financier, puis sur le plan énergétique, c'est pas convenable. Ah, mais il me dit, on a respecté les normes. On a respecté les normes, c'est-à-dire, oui, dans les giratoires, il y a une norme d'éclairage qui fait qu'il faut tant de luxe au sol et pas moins. Et là, on est aux normes. Alors, je livre ça parce que un giratoire, c'est rien. Il y en a des dizaines de milliers en France. Ça commence à compter un peu. Et on est devenu, peut-être avec certaines normes, énergétivore à la folie. À la folie. Et je reviens à vos propos, j'ai beaucoup travaillé avec certains de vos collègues de l'ADEME, évidemment, comme beaucoup d'élus, la sobriété, les économies d'énergie, ça se trouve partout maintenant. Il y a des efforts permanents, mais c'est un combat qui n'est jamais gagné. Vous avez optimisé une installation, si vous ne la surveillez pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, elle sera peut-être totalement inopérante. Alors, voilà moi, quelques exemples de choses vécues qui m'ont amené à considérer que c'était des sujets sur lesquels, même sur des petits territoires, dans la mesure où ça pourrait être multiplié au niveau d'un continent, il faut être ambitieux, on générerait des économies fantastiques que le baril vaille 100 dollars ou qu'il en vaille 50 ou 200 demain, peut-être, on n'en sait rien. De toute façon, il y a
justement pour arriver à cette sobriété et pour arriver à changer, parce que bon, on s'y vit dans une urgence de plus en plus grande, est-ce que la simple incitation, c'était le sens de ma question, va continuer à suffire pour tenir ce rythme, ou est-ce que d'ici quelques années, on va être obligé de mettre en place des mesures contraignantes?
Je vais rajouter un mot. Il y a des élus dans la salle, il y a M. Dulay. Les économies d'énergie sur le plan politique, ça ne fait pas une voix. Hein, faut être clair. Ça ne se voit pas. C'est invisible. Vous faites 100 mètres de trottoir, 100 mètres de route, ça se voit. vous pouvez faire 30% d'économie d'énergie, c'est complètement invisible. Et vous ne pouvez même pas en parler dans une campagne électorale parce que le public, ce n'est pas son problème. Hein? Mais on faudra peut-être y revenir tout à l'heure.
Oui, Marie Legrand.
Moi, je voudrais répondre d'une manière assez positive. Je pense que suite au Grenelle de l'environnement, il était question, c'était le gros sujet, de réduire de 10 km/h notre vitesse moyenne au volant. Bon, je crois que ce n'est pas ce genre de mesure qui va bouleverser la vie et les années qui viennent. Moi, je retiens le message de Pierre Radane aux générations futures, qu'on peut lire d'ailleurs dans son livre « L'énergie de ton siècle », un livre sorti l'année dernière. En fait, il dit aux générations futures donc, qu'ils vont vivre des bouleversements dont ils n'ont pas idée, mais qui vont être extrêmement positifs, extrêmement intéressants, qui sont de la même nature que les bouleversements qu'ont connus les enfants nés autour de 1750-1760 en France, et qui ont connu par la suite non seulement la Révolution française, donc des bouleversements tout de même assez énormes politiquement, et ensuite l'arrivée de l'électricité, l'arrivée du train, donc des bouleversements dans la vie quotidienne dont ils ne pouvaient pas avoir idée en 1750. Et bien, c'est la même chose pour les générations qui sont nées là maintenant. Les maisons à venir vont être des maisons qui auront une peau de cellules photovoltaïques à énergie positive. Les déplacements seront à réinventer. Donc, bon, je pense qu'il faut être optimiste et penser que tout cela va être modifié. Évidemment, c'est notre rôle, nous, en tant que politique, de faire plus que l'accompagner et d'y aller le plus vite possible. Mais il ne faut pas imaginer une grande douleur collective. Et puis je voulais dire aussi à notre collègue géologue qui parlait des animaux qui survivraient. En effet, c'est les humains qui risquent de payer les pots cassés si on ne fait rien et d'être la race animale qui va disparaître, mais pas forcément au bénéfice de ce que disait notre collègue. Des scientifiques pensent que les espèces qui prendraient le pouvoir sur la planète seraient plutôt à chercher du côté des mammifères marins, dauphins et compagnie, ou des pieuvres. Vous voyez, c'est tout à fait inattendu pour leur faculté à faire plusieurs choses en même temps. Alors, bon, j'attends une autre question.
Hein. Donc, venons-en donc maintenant aux questions de la salle. Alors, une première question de Françoise Talbot concernant le réchauffement de l'eau, des côtes et l'impact économique.
Oui, ma question est ouverte à qui voudra répondre, qui pourra répondre. Le réchauffement de la planète, vous disiez également, nous savons également que les océans vont monter, je dirais, vont prendre du volume. Donc, quelle influence cela va avoir sur le réchauffement ou le refroidissement de nos côtes? Le Gulf Stream qui parcourt nos côtes françaises, qui nous réchauffe nos plages. Il semblerait que plutôt ça va nous refroidir, il va refroidir plutôt nos plages. Et puis, quel impact, moi, les conséquences que je voyais, c'était également des conséquences économiques. Hein, quel impact économique cela pourrait avoir dans notre région, mais sur les côtes en général et en France généralement, puisque la France représente une toute petite parcelle dans ce grand monde.
Pour la première partie, peut-être, François-Marie Pellerin sur le Gulf Stream.
Je ne suis pas du tout spécialiste.
Mais peut-être le plus spécialiste. Alors.
Non, effectivement, c'est une question qui a été soulevée. Je ne suis pas du tout spécialiste. Hein. C'est un débat. Je crois que c'est des modèles. Bon, ça fait partie des modèles qu'il y a eu. C'est un débat. On ne sait pas trop. Justement, c'est l'incertitude. C'est pour ça qu'il faut être très prudent sur ces aspects-là. Je voudrais en profiter prudence. Hein, prudence. Est-ce que ça va se réchauffer? Est-ce que ça va se refroidir? On ne sait pas trop. Ça va changer. C'est pour ça qu'on préfère d'ailleurs parler de changement climatique plutôt que de réchauffement. Et puis, ce qu'on soupçonne, c'est que ça va me permettre d'enchaîner, c'est que ce sont plutôt les événements qu'on dit les plus extraordinaires, les plus paroxysmiques, dont les fréquences risquent d'augmenter. Alors, je reprends, donc, il y a l'élévation de température éventuelle, et aussi, on a évoqué la chose de l'élévation du niveau de la mer. Alors, marée poids de vin, on pense, tiens, attention. Attention, mais là aussi, il y a une grosse incertitude. Parce qu'on a parlé du trait de côte, hein. Il y a des zones qui vont s'éroder, mais puisqu'il y a des zones qui vont s'éroder, il y a d'autres zones où au contraire la sédimentation va s'accumuler. Et la baie d'Aiguillon, par exemple, il n'est pas du tout prouvé que si le niveau de la mer monte, la baie d'Aiguillon, peut-être que son comblement va s'accélérer. Donc ça va traduire, ça risque, c'est un exemple que je donne, mais de manière sans aucune preuve scientifique, mais de manière un peu outrancière pour dire attention, Attention, dans les prospectives, hein, il faut s'attendre peut-être à renforcer les digues. Alors là aussi, on en reparlera. Peut-être que ce changement climatique, en ce moment, il y a un effet pervers qui pourrait faire en sorte que ça puisse servir. C'est un prétexte qui puisse servir à certains. On les connaît dans la République, les aménageurs, donc aux héritiers des aménageurs, pour mettre en avant encore d'autres aménagements, encore beaucoup plus. Non, il y a d'autres aspects. Donc, je reviens sur cette idée. On sait que donc tout le changement de la gestion de l'eau dans le marais va être dans le marais et tous les grands marais littoraux hein, va sans doute être à revoir. Et en ce moment, on travaille sur ces schémas d'aménagement de gestion des eaux et c'est effectivement c'est des problématiques qu'on appréhende mal parce que je vous ai dit hein, en ce moment on est sur des sujets actuels avec des pratiques actuelles qui déjà déstabilisent complètement le système. Donc effectivement, on est dans l'incertitude. Ce sont et malheureusement, ce sont des éléments qu'on a du mal à prendre en compte, d'autant plus qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Bon, on reviendra sur certaines hypothèses éventuellement, comme celle de Fernand Verger, hein, d'adaptation, qui sont des adaptations autres que de renforcer toujours les digues. Mais c'est pour, je réponds de manière très indirecte, hein, les conséquences économiques, on les maîtrise pas très bien. Et puis là, ça me permettra de faire une transition pour les politiques. Il y a des conséquences positives. Il y a des conséquences positives. Il y a des industriels ou des grands transporteurs qui n'attendent que ça pour passer. Vous savez, la banquise, elle va fondre. Donc, on va raccourcir tous les trajets hein, autour du pôle Nord.
Pour les conséquences économiques, Marie Legrand, une réponse.
Les trois intervenants de la première partie de votre émission, enfin, sur ces trois intervenants, certains ont déjà abordé la question. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intervention autour du cognac, qui risquait d'être produit dans d'autres secteurs européens que le Poitou-Charentes. Et je pense qu'il y a aussi d'autres exemples donnés, ou donné un document écrit de M. Albouy sur le maïs irrigué qui irait droit à sa perte en Poitou-Charentes, faute d'eau. Donc voilà deux exemples. Ils sont loin d'être complets. La question de Madame est très intéressante et on ne peut pas vous répondre ce soir comme ça en quelques prévisions un peu floues. Simplement, la région Poitou-Charentes, là encore, a commandé une étude socio-économique sur cette question avec trois hypothèses de bouleversement de réchauffement climatique avant 2050. C'est 2050-2100, et a demandé donc à un cabinet d'études, l'appel est lancé, de faire un travail prospectif pour voir, selon les trois hypothèses de réchauffement, quelles seraient les conséquences à la fois sur le plan de l'économie locale et des conséquences sociales sur l'emploi. Donc nous aurons le résultat de ce travail dans quelques mois, il faut patienter.
Pour poursuivre donc sur le plan économique, une question de Mathieu sur la nécessité ou pas de passer à un stade de décroissance économique.
Donc, on sort tout juste là du Grenelle de l'environnement et on nous a proposé plein de mesures. Enfin, en tout cas, il y a des idées qui sont sorties de ce Grenelle. Je me demande si c'est suffisant par rapport aux enjeux qu'il y a aujourd'hui au niveau des énergies, de l'environnement en général. Est-ce que on n'a pas intérêt à changer complètement nos modes de vie et passer par une décroissance justement pour revenir à quelque chose de plus sain et naturel?
Qui veut répondre à cette question?
Je passerai la parole aux élus, bien évidemment. D'abord, quand je parlais par cynisme de conséquences positives, justement, j'évoquais ça en arrière-plan, hein. Ces conséquences positives vues d'un point de vue libéral. C'est ce que je voulais dire et j'ai peut-être mal exprimé tout à l'heure. Hein, c'est que de mettre en avant sans arrêt ce changement climatique, ça peut servir en ce moment, justement, un certain nombre ça peut servir à développer un certain nombre d'axes, justement, avec toujours plus de croissance au sens où on l'entend habituellement. Je parlais des échanges des transports sur le nord. Cette fonte de la banquise va libérer des secteurs où va pouvoir libérer aussi au niveau de l'exploration pétrolière des gisements beaucoup plus importants, etc. Donc c'était dans ce sens-là, de manière un peu cynique, où je parlais de cet aspect-là. C'était simplement pour avertir que le fait d'appréhender le changement climatique simplement en tant que tel, sans le mettre dans un contexte plus global, évidemment, d'impact environnemental qui déborde largement le changement climatique, ça peut avoir des effets pervers.
Sur la décroissance, j'aime beaucoup cette question. D'abord, une réflexion très personnelle sur le Poitou-Charentes, et après, une réflexion plus générale sur la décroissance ou la croissance. Réflexion personnelle sur le Poitou-Charentes, qui n'est pas la seule région à offrir ce magnifique exemple, mais on est quand même bien équipé. C'est la question des hypermarchés et de la consommation en produits de, je veux dire, alimentaires de la plupart de nos concitoyens. Plus de 85% de la consommation alimentaire des habitants du Poitou-Charentes provient des supermarchés. Nous sommes suréquipés en supermarchés et certaines villes comme Poitiers continuent à accroître leur capacité en ce type d'équipement qui va, selon notre ami Pierre Adam, qui nous guidait dans notre plan climat, à l'encontre du développement durable. Pour des quantités de raisons, je ne vais pas vous développer maintenant, vous devez les connaître, hein, des questions de montage financier du supermarché, des circuits qu'il implique et surtout de son rôle de pompe à véhicule, donc de gaspillage énergétique. Et alors la question, moi je pense, se poser la question de la sobriété, même au niveau alimentaire, c'est-à-dire se poser la question de consommer plus végétarien que carné, plus saisonnier comme on le disait déjà, plus circuit court avec des produits locaux. Donc imaginer d'autres modes de consommation, c'est quelque chose auquel on ne pourra pas échapper. Donc quand on me parle de décroissance à titre personnel, moi je suis complètement d'accord pour parler de la décroissance de l'équipement en supermarché, de la décroissance des transports routiers qu'ils impliquent avec des denrées qui traversent la France et l'Europe dans tous les sens, de la décroissance de la fabrication des yaourts qui ont consommé un nombre incroyable de kilomètres de produits qui vont d'un coin à l'autre encore de l'Europe pour arriver au lieu d'assemblage, décroissance de toute une certaine catégorie, je dirais, d'activités qui ne sont pas, je dirais, d'un point de vue écologique, durables. Par contre, croissance d'un certain nombre d'activités autour de la sobriété énergétique, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. L'ADEME a fait un calcul en la matière et a montré qu'il y a des centaines, plusieurs dizaines de milliers d'emplois en France qui sont liés directement à ces politiques-là.
Une question maintenant de Jean-Pierre Martin autour du pouvoir économique et financier.
Oui, je suis évidemment très intéressé comme chacun d'ici et ça se traduit par des comportements individuels économe et citoyen. Ceci dit, je me sens petit, je nous sens petits, et malgré tout le respect que je peux avoir pour les élus locaux, alors je ne suis pas de cette région, je le dis d'autant plus facilement, je sens aussi nos élus locaux petits par rapport à l'ampleur des enjeux. Alors, au risque de paraître simpliste et un petit peu provocateur, mais ce dont Madame Legrand disait souhaiter la décroissance, Ça fait écho à ce que j'avais écrit dans ma question tout à l'heure. La mondialisation que l'on vit actuellement semble nous montrer que le pouvoir n'est pas entre les mains des politiques. Le pouvoir est entre les mains, au niveau macroéconomique, des flux financiers internationaux qui n'ont pas une logique de long terme. Enfin, il était question d'une centaine d'années tout à l'heure par rapport à la forêt, là on se situe sur du long terme. Quand il était question tout à l'heure de, je ne sais plus exactement le terme qui a été utilisé, mais on subit ou on vit en ce moment ce qui a été préparé par nos grands-parents et on prépare finalement l'avenir de nos petits-enfants et les mesures qu'on prend maintenant, elles n'auront effet que très tardivement. Alors que ce qui gère l'économie actuellement, ce sont des soucis d'intérêt à court terme. Hein, alors que ce soit les transports, l'utilisation des énergies fossiles, les transports, etc. Donc ma question, c'est quand vous aviez vous évoqué tout à l'heure en tant qu'animateur la nécessité de prendre des mesures contraignantes, il y avait aussi ça derrière. Est-ce que le politique pourra, au niveau mondial, reprendre le pouvoir sur un certain nombre de contraintes économiques qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général.
Donc, reportons la question à nos deux élus. Le pouvoir politique est-il suffisant pour répondre à toute la problématique environnementale ?
Quand on parle de pouvoir politique, il s'agit bien sûr de pouvoir économique. Tout à l'heure, on nous a déjà bien montré que dans les accords de Kyoto, il y a quand même une grande entité politique et économique mondiale qui sont les États-Unis d'Amérique et qui n'ont pas brillé par leur engagement en la matière sur les accords de Kyoto. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre un pays et l'autre. Donc il n'y a pas d'homogénéité des comportements. Et vous avez raison de dire, en fait, ce sont des intérêts financiers énormes qui sont au cœur du désastre quelquefois. Mais en même temps, je ne suis pas du tout, quand vous dites que nous, les petits élus locaux, bien, on n'a pas grand-chose à faire. Justement, si les exemples qui ont été développés par Jean Buffreau autour d'une ville moyenne comme Rochefort ou la région Poitou-Charentes montrent que des collectivités locales qui s'engagent fermement dans ce domaine-là peuvent agir efficacement, malgré le contexte mondial qui nous est bien sûr défavorable. Mais à ce moment-là, si on commence par dire on ne peut rien faire, ben c'est sûr qu'il ne se passera pas grand-chose. La question est très difficile, parce que comment lutter contre un contexte mondial de puissance financière qui mène un certain nombre de politiques? Moi, je veux dire, on peut agir localement malgré cela.
Jean-Louis Fro, votre sentiment?
Alors, moi, je vais me placer sur un terrain hyper pragmatique. La Charente-Maritime, 460 km de côte. Demain, la mer monte de 45 cm. Avec 100 000 hectares de marais, presque tous en frange littorale, nous en sommes au stade où nous commençons à nous sentir interpellés par le problème. On n'a pas aujourd'hui l'amorce d'une solution. Et si la mer doit effectivement monter de 45 cm, il a été évoqué tout à l'heure, c'est M. Louis, je crois, entre 17 et 45 cm à horizon 2050, ce n'est pas du tout les mêmes effets. Aujourd'hui, et là, on n'est pas forcément très bon, mais on peut se trouver des excuses. On a une feuille blanche encore devant nous. On ne sait pas répondre. 460 km de côte, si on veut éviter des modifications lourdes dans l'existence même du littoral charentais-maritime, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, on opère tous les ans des opérations de défense de côte liées au risque tempête, qui est le risque banal. Il y a tous les ans des tempêtes, et il y en aura encore longtemps. Là, ponctuellement, on est capable d'intervenir. Mais aujourd'hui, il faut qu'on engage une réflexion sur le long terme, le 21e siècle, pour savoir comment on fait sur un littoral comme celui-là pour se préserver ou imaginer un avenir. Pas forcément se préserver, mais imaginer un avenir. Nous constatons complètement ce qu'a évoqué mon voisin tout à l'heure. Hein, vous référiez à la baie de l'Aiguillon, moi je peux me référer à l'embouchure de la Charente. À l'embouchure de la Charente, il y a un côté qui s'engraisse nettement, alors que 20 km plus loin, dans le secteur de la presqu'île d'Arvers, on va trouver l'inverse. On le constate, on est incapable de l'expliquer et incapable de chercher un remède, le mot peut-être pas bon d'ailleurs. Mais alors, on est très loin de la problématique mondiale. On est très loin de la problématique mondiale. Mais néanmoins, on est aussi très loin d'avoir en main des solutions à proposer sur ce qui peut se passer d'ici les 50 prochaines années.
Emmanuel Béjanin, une réaction?
Vous vous sentez seul et je vous comprends. Il m'arrive de manier les chiffres des émissions de gaz à effet de serre et parfois on peut se sentir un petit peu désemparé par les chiffres qu'on observe. Une remarque, juste une, par exemple quand on voit le niveau au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre, la seule croissance de la Chine entre 2005 et 2006, la seule partie de l'augmentation représente l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc ça fait peur quand on voit ça. Il y a deux manières de voir le problème. Soit on se dit, bah écoutez, il n'y a plus rien à faire parce que le problème nous dépasse complètement. Soit l'autre manière de voir les choses, c'est de se dire que on va agir sur ce sur quoi on peut agir à notre modeste échelle, en se disant que d'abord, nous sommes les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre par habitant, donc c'est à nous de donner cette impulsion. Aujourd'hui, un Français, il émet 9 tonnes de gaz à effet de serre, un Chinois, il en émet 2. Donc à qui doit faire l'effort aujourd'hui? C'est bien nous. c'est bien nous, pays gros émetteurs. Les États-Unis, c'est 18 tonnes de gaz, 18 tonnes de CO2 équivalent qui émettent dans l'atmosphère. Donc c'est bien aux pays riches, occidentalisés, de porter l'effort. Nous qui sommes informés de la situation, c'est à nous de faire le premier geste et d'entraîner par la suite les autres pays internationaux dans ce mouvement collectif. Il y a un beau message qui est développé aujourd'hui en France. Il n'y a pas de petit geste quand on est 60 millions. On pourrait reporter cette phrase au niveau planétaire. Il faut tous que l'on s'y mette. C'est un problème, comme on dit, local, c'est-à-dire à l'échelle globale de la Terre, mais avec des solutions locales.
Donc il nous reste encore 10 minutes d'émission, donc on va essayer de faire un peu plus vite sur les réponses donc aux questions restantes. Une question de Cyril Héron qui touche la construction automobile.
Simplement, rapidement, je m'étonne que les constructeurs français et européens n'aient pas encore mis sur le marché, à des prix abordables par le plus grand nombre, des voitures à moteur hybride. Quand on voit à quel point les transports routiers et l'utilisation massive de l'automobile est productrice de gaz à effet de serre. Comment se fait-il qu'on ait pris un tel retard, sachant que Toyota a mis sur le marché la Prius hybride? Je ne vois pas bien pourquoi Peugeot, Citroën et...
Donc nous n'avons pas de représentant de l'industrie automobile. Est-ce que quelqu'un peut répondre?
Je crois que la grande question, au-delà de votre question est pertinente, on s'impose tous cette question, pourquoi on n'a pas mis l'équivalent de la Prius en vente en France, avec un modèle plus petit tout de même. Je vous disais dans une revue spécialisée ces jours derniers que les Japonais avaient mis au point un tout petit véhicule en plastique mou, sa couleur est jaune canard, et elle fonctionne à la pile à hydrogène. Donc vous voyez que ça y est, les premières voitures de ce type apparaissent. Moi, je crois qu'au-delà de l'histoire de la voiture qui fonctionne à l'hydrogène ou mix, etc., ou électrique, c'est la question du déplacement et de l'urbanisme qui doit être au cœur de nos préoccupations d'élus. Parce que c'est vrai que là encore, en Poitou-Charentes, on a un bon modèle d'émiettement des espaces périurbains, d'éloignement des habitants obligés des centres-villes parce que l'accès au logement, il devient impossible vu le prix des logements. Donc, on est dans une région où l'habitat est repoussé à l'extérieur, dans des lotissements, dans des petites villes, et ce qui oblige les familles à avoir 2, 3, voire plus de véhicules pour répondre aux besoins quotidiens des membres de la famille pour aller au travail. Et là, il y a un réel problème de l'organisation collective de l'espace et du déplacement, avec en plus, la plupart du temps, aucune solution alternative à l'automobile.
Une question maintenant de Klaus Waldeck pour continuer sur la même série concernant la politique des chemins de fer.
Merci. Dans la première partie de cette rencontre, le rôle des dioxines de carbone pour le réchauffement climatique a été souligné. Dans le cadre de la mondialisation, les distances parcourues pour le transport des marchandises sont de plus en plus importantes et en même temps, nous assistons à l'utilisation d'un nombre de camions croissants qui abîment en plus souvent les routes qu'ils n'ont pas faites pour supporter de très grands véhicules. Ceci s'explique en partie par le rôle de plus en plus réduit que l'État accorde aux fret assurés par le chemin de fer. Dans le domaine du transport des voyageurs, l'expiration de certaines lignes a été également constatée, y compris dans les Deux-Sèvres. Même si une association deux-sèvrienne arrive tout juste à obtenir quelques garanties pour un financement d'études concernant la réintroduction de trains entre Thouars et Niort, j'estime quand même qu'il faut s'interroger sur les causes du faible rôle que les organismes de l'État accordent depuis des années aux chemins de fer en dehors du réseau des TGV existants.
Qui veut répondre?
Le constat est parfait, le constat est clair et parfait, pose la grande question de la présence d'un lobby parmi beaucoup d'autres, hein. Je peux vous en citer toute une série, mes collègues les connaissent, le lobby, je dirais, des entreprises qui vivent du transport routier et qui sont très puissantes puisqu'elles ont été capables il y a quelques années de paralyser l'ensemble du pays par des grèves spectaculaires, des blocages de postes de ravitaillement en carburant. Donc je pense que c'est un des éléments de réponse. Bon, il y a très longtemps, je me souviens d'un grand débat public où il y avait M. Raffarin, juste après l'accident terrible sur l'autoroute à Mirambeau. Et je posais publiquement la question du remplacement du fret par les camions sur le sur les trains et j'ai eu une réponse très positive où l'État allait s'engager massivement à mettre le transport sur les rails. C'était il y a une dizaine d'années, on n'a rien vu hein, depuis. Donc là encore, je crois que là vous touchez sur une politique d'ordre national, mais c'est vrai que localement, on peut aussi donner notre point de vue et on ne s'en prive pas, je dois vous dire. Mais c'est un des grands scandales français. Quand vous voyez ce qui se passe en Autriche et en Suisse, avec l'avancée quand même assez extraordinaire des politiques de transport par le rail, eh bien, il y a de quoi se faire assez discret en France hein, sur la question.
Pour poursuivre sur le même sujet, peut-être, on a parlé du fret, mais qu'en est-il du transport des personnes? Est-ce que des politiques en faveur de transport en commun vont voir le jour ou pas?
La région a une marge de manœuvre sur le TER. On a augmenté de 20% la part des voyageurs sur le TER. Ça fait partie de notre calcul dans la réduction des gaz à effet de serre dont je parlais tout à l'heure. Mais mis à part le TER qui est une politique régionale, les transports en commun sont du ressort soit des politiques des communautés d'agglomération qui mettent en place un réseau de bus ou de tram, enfin, ce qu'ils ont envie de mettre en place, ou les départements peuvent également, et le font, mettre en place des réseaux de transport d'écoliers ou de collégiens. Hein, donc chaque collectivité a son niveau d'intervention, c'est la complexité française. 3-4 niveaux, voire plus, se superposent.
Jean-Louis Fraud.
Ne nous faisons aucune illusion. Et là, je suis un peu en décalage par rapport à ce que dit Marie Legrand. Et on va... Aujourd'hui, on est parti pour bricoler. Il faut regarder la vérité droit dans les yeux. On vient de mettre en service un nouveau régime de TER, liaison qui commence à être annoncée, entre La Rochelle et Rochefort. Les études qu'on avait lancé cette affaire au niveau des études amont avec Michel Crépeau il y a 10 ans, ça vient seulement de se faire grâce d'ailleurs notamment aux efforts de la région. Mais l'objectif c'était de faire passer le nombre de passagers, d'utilisateurs de la liaison La Rochelle-Rochefort par rapport à la totalité des mouvements quotidiens enregistrés sur l'automobile de 1 à 2%. Et cet objectif va sans doute être atteint. 1 à 2%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 98% des gens vont continuer à se déplacer avec un moyen automobile entre les deux villes. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement la solution devant nous à moins de 20 ans d'ici. Je ne le crois pas.
Sur de coûts, peut-être que le jour où...
plus est, et s'ajoute à ça, la charge financière supportée par la collectivité, c'est-à-dire par chaque citoyen, le transport SNCF étant évidemment déficitaire, la région sait ce qu'il en est. Ce qui veut dire que c'est ce que l'utilisateur ne paie pas, c'est le contribuable qui va le payer. Il n'y a pas de miracle. Alors, je crois, et c'est un non problème, dans des régions comme les nôtres, où il n'y a pas de grande ville, c'est-à-dire où il n'y a pas de transport en commun, sauf peut-être Poitiers et La Rochelle, et puis le Niort et Angoulême aussi, les 4 préfectures, mais nos villes sont mal structurées, et je crois qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits, en termes de transport urbain et périurbain, parce que, et là, je rejoins complètement Marie Legrand, notre urbanisation s'est développée de façon extrêmement décousue, et les collectivités concernées ne sont pas à même de répondre efficacement à une demande. C'est pas possible.
Très très vite, je conclue de l'intervention de M. Fraud que le Conseil général de la Charente-Maritime devrait être extrêmement réservé sur le projet d'autoroute A831 qui va de Rochefort à Fontenay-le-Comte.
Alors moi je veux bien aborder le problème, mais il n'est pas réservé du tout. Et les élus des deux communautés d'agglo de La Rochelle et de Rochefort sont absolument pas réservés non plus. On ne peut pas continuer comme on est aujourd'hui. Nous sommes encore au 19e siècle, ça ne peut pas durer.
Une ou deux questions encore, très très rapides. Donc, une de Marc Almiesira sur les maisons en bois.
Moi, c'est une question simple, mais je pense qu'elle va avoir d'autres répercussions. l'environnement est à la mode par nécessité. Mais l'industrie va se mettre dans ce business, ça va devenir un business. Et donc dans le cadre de ce business, on va avoir des marchands qui vont venir nous vendre tout et n'importe quoi. J'ai assisté dans une autre région, parce que je suis originaire d'une autre région, à une conférence d'un marchand de maison en voie de pays. Déjà voie de pays, on évitait le transport. Mais à l'écouter, c'était un puits de gaz carbonique et on devrait tous faire notre maison en voie de pays. Ce qui permettrait de faire une rotation des forêts. Donc, comme ce sont les forêts en pousse qui stockent le gaz carbonique, on stockerait beaucoup de gaz carbonique en construisant des maisons en bois. Moi, ce que je dis, c'est plutôt une bombe à retardement, parce que quand toutes les maisons vont tomber en morceaux, on va libérer le gaz carbonique. Et si c'était une vraie solution, à ce moment-là, les élus devraient impulser pour qu'on construise beaucoup de maisons en bois de pays, pour qu'on puisse faire ce marché l'ensemble de l'économie locale et en même temps qu'on génère de l'économie d'énergie. Donc on va être confronté à des vraies solutions, à des vraies fausses solutions. On est un peu livré, nous, citoyens, au marché, à l'économie de marché. Donc est-ce qu'on peut espérer des aides?
Tu veux répondre?
Vous êtes de quel endroit, monsieur? Vous êtes de... D'accord. Alors, en région Poitou-Charentes, la région a décidé, il y a plus de 2 ans, d'aider les particuliers ou les organismes HLM qui se lanceraient sur de l'habitat à ossature bois et à très faible consommation d'énergie ramenée en kilowatts par mètre carré, 45, hein, c'est le chiffre qui permet d'avoir une aide. Donc les deux sont liés, il faut une maison à ossature bois et en même temps une très grande efficacité énergétique, sinon le projet ne passe pas. Et nous en sommes à environ 200 logements qui ont été faits, qui ont été aidés par la région. Donc j'en connais quelques-uns que j'ai pu visiter dans la Vienne, qui ont été faits par CPA, l'office HLM, et qui sont très performants. Donc je ne comprends pas où est votre crainte de ces maisons en bois. Parce que l'ossature bois ne vient pas forcément de la forêt de Chizet ou d'une forêt du Poitou-Charentes. Ce n'est pas dans nos critères de dette sur l'ossature bois. Évidemment, ce sont des bois certifiés. C'est certes, on ne déforeste pas l'Amazonie ou je ne sais quoi, mais on encourage un habitat peu consommateur et de qualité, et qui peut durer très longtemps.
Ma crainte, c'est, imaginons que nous construisons 100 000 bâtisses en bois. À un moment ou à un autre, ces bâtisses vont se dégrader et vont retourner à la nature. Et à ce moment-là, on va bien libérer le gaz carbonique qui était stocké dans ce bois. Donc c'est une espèce de bombe à retardement, si j'ose dire. Mais je peux me tromper.
Enfin, une dernière question de Marie Grimaud concernant les gaz à effet de serre.
Alors, c'est une question de citoyenne qui rejoint aussi le problème de logement et plus précisément de chauffage. Alors, on nous dit de réduire le plus possible de diminuer le plus possible les rejets de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone, donc chauffant à base de fioul, je m'interroge sur une autre conversion. Et alors, pensant à la géothermie, je pense que c'est un moyen qui utilise aussi d'autres gaz possibles à effet de serre, c'est à base de gaz fluoré. Et autant, au niveau des informations, on entend beaucoup parler de la capacité à nuire du dioxyde de carbone, mais qu'en est-il des gaz fluorés? Moi, j'ai entendu dire qu'ils étaient 20 fois plus nocifs. Donc, si dans les circuits qu'on utilise en géothermie, on évite effectivement le rejet de dioxyde de carbone, est-ce qu'on est protégé pour autant de rejet de gaz fluoré, d'autant plus?
Oui, alors vous parlez des liquides frigorigènes. Oui, ils ont un pouvoir de réchauffement global, un PRG, ce qu'on appelle dans le jargon, qui est très important, puisque leur durée de vie, comme je le précisais tout hier, leur durée de vie peut atteindre plusieurs milliers d'années dans l'atmosphère. Donc leur PRG est extrêmement élevé. Néanmoins, dans les systèmes de géothermie, vous allez avoir un fluide caloporteur qui n'est pas forcément des liquides qui contiennent du PFC, du SF6 ou du HFC. Donc, tout dépend de ce qui circule à l'intérieur de vos tuyaux. Mais ce qui est évident, c'est que dans tous les systèmes de climatisation, que ce soit les climatisations de voitures ou dans les systèmes de réfrigération de vos appareils électroménagers, là, vous avez des allocarbures.
Voilà, donc c'est sur cette dernière question que s'achève notre conférence débat changement climatique et biodiversité. Je rappelle qu'elle était organisée sur la proposition de Poitou-Charentes Nature et animée donc par Radio Accor Poitou. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions en présence de Marie Legrand, vice-présidente du Conseil régional Poitou-Charentes chargé de l'environnement, de Jean-Louis Fraud, qui est vice-président du Conseil général de Charente-Maritime et conseiller régional. Ce soir, nous avions également François-Marie Pellerin, président de la coordination pour la défense du marais Poitevin et ingénieur géologue. Également, Emmanuel Bajana de l'ADEME a répondu à quelques questions. Merci à tous. Bonsoir.